Studio Tamani, voici les informations en français.
À l'écoute de Studio Tamani, il est 18h. Bonsoir et bienvenue. Voici les titres de ce journal. Une administration provisoire de l'État va diriger pendant 6 mois les mines d'or de Loulo SA et Gounkoto SA. Cette décision n'enchante pas la société canadienne Barrick Gold qui détient 80% du complexe minier. L'examen du brevet de technicien 1E2 se poursuit dans le pays. À ce deuxième jour des épreuves, aucun incident majeur n'a été signalé pour le moment. La journée de l'enfant africain a été célébrée hier au Mali. Des organisations de défense des droits des enfants ont saisi l'occasion pour interpeller les autorités sur la situation des enfants victimes d'esclavage par ascendance. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant avec Assetou Kanté. Philippe Dembélé est à la technique. Le tribunal de commerce de Bamako a ordonné une administration provisoire de l'État pendant 6 mois pour diriger les mines d'or de Loulo SA et Gounkoto SA. Cette décision intervenue le lundi dernier fait suite à un conflit opposant l'État malien à la société canadienne Barrick Gold qui détient 80% du complexe minier. Barrick Gold a exprimé son mécontentement et envisage de saisir le Centre international pour le règlement des différends relatif aux investissements. Le point avec Ousmane Nialibouli.
Soumana Makadji, expert comptable et ancien ministre, a été nommé nouvel administrateur provisoire des mines d'or de Loulou SA et de Gounkoto SA. Les autorités maliennes ont exigé cette mesure afin de relancer les activités d'extraction à l'arrêt depuis janvier dernier sur les sites de Loulou SA et de Gounkoto SA. Cette demande d'administration provisoire a été introduite devant le tribunal de commerce de Bamako le 8 mai 2025. Selon la décision du tribunal, le nouvel administrateur provisoire aura pour mission de rouvrir les mines dans les plus brefs délais. Il lui est également demandé de présenter un rapport d'activité tous les 3 mois, notamment sur le fonctionnement des sites et les difficultés rencontrées. Dans un communiqué publié ce lundi, la société canadienne Barrick Gold a réagi à la décision du tribunal. Elle affirme que ses actions injustifiées ont mené à la suspension temporaire des opérations. Cependant, Barrick Gold dit vouloir trouver une solution constructive et mutuellement acceptable. Bien que l'entreprise ait saisi le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, elle maintient néanmoins sa position. Pour rappel, les services fiscaux maliens ont fermé les bureaux du groupe minier à Bamako en avril dernier pour non-paiement d'impôts. Ces différends entre l'État malien et la société canadienne a débuté fin 2024.
Il est urgent de relancer les activités du complexe minier de Loulo-Gounkoto du fait de son apport positif au trésor public. C'est ce qu'a déclaré professeur ingénieur Diala Konaté. Selon le consultant minier, le nouvel administrateur provisoire devrait être accompagné d'une équipe d'experts et de professionnels du secteur afin de mener à bien sa mission. Il est au micro de Ousmane Nialibouli.
Quand on parle de production, ce n'est pas du tic-tac. Pour cela, la géologie et le contexte géologique qui doit s'associer des spécialistes qui peuvent parler de ça de façon propre et l'intégrer aux documents qui ont été proposés depuis l'ouverture des 2000 à ciel ouvert comme la souterraine pour associer à cela des spécialistes en planification minière, voir comment sur les 6 mois ils peuvent s'organiser et aller donc d'une planification qui équivaut au plan proposé par les premiers acteurs qui sont donc naturellement l'équipe de management de Barrick qui est sur ce complexe pour pouvoir assurer un bon rendement au moment du bilan des 6 mois qui lui sont donnés pour effectuer sa mission.
18h passé de 4 minutes, réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook, notre compte X. Les épreuves de l'examen d'obtention du brevet de technicien 1E2 se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Aucun incident majeur n'a été pour le moment signalé à Bamako et dans les régions à ce deuxième jour de déroulement de l'examen. Cependant, les autorités scolaires déplorent des cas d'absence dans certaines régions du centre et du nord du pays. Les détails avec Imirana Kilumaiga.
À Gao, au nord du pays, 562 candidats, dont 307 filles réparties entre 3 centres, prennent part à cet examen. Même si des cas de fraude et encore moins de fuite de sujets n'ont été signalés, le directeur de l'Académie d'enseignement regrette des absences notifiées sans préciser le nombre. Par ailleurs, en Songo de la région de Gao, 7 cas d'absence sur un total de 28 candidats ont été observés, rapportent les autorités scolaires locales. Le centre du groupe scolaire Lassana Samasiku de Mopti a enregistré au deuxième jour 102 deux absents sur les 214 candidats inscrits dans ce centre. L'Académie d'enseignement de Mopti compte 6 centres d'examen avec un nombre total de 1652 candidats. Les autorités scolaires n'ont enregistré aucun cas de fraude ou de fuite de sujet à ce jour. 2993 candidats composent dans 10 centres à ce goût au centre du pays. Les épreuves se déroulent normalement, même constat à Kay, à Koutiala ainsi qu'à Diré au nord du pays, où les 5 candidats inscrits, dont 45 filles, ont répondu à l'appel.
Je vous l'annonçais dans les titres, Journée de l'enfant africain, des organisations de défense des droits des enfants montent au créneau. Elles interpellent les autorités sur la situation des enfants victimes d'esclavage par ascendance. L'association TEMED, WILDAF Mali, en partenariat avec l'ONG Avocats sans frontières Canada, ont saisi l'occasion pour lancer une pétition afin d'accélérer le processus d'adoption d'une loi spécifique contre l'esclavage par ascendance au Mali. Une loi qui protégerait davantage les enfants qui en sont victimes. C'était hier à la Maison de la Presse. Reportage de Lale Tangara.
Le ton a été donné par la coordinatrice juridique de l'organisation Avocats sans frontières Canada, Danushka Assoumou. Elle a dénoncé le sort réservé aux personnes étiquetées comme esclaves au Mali.
Aujourd'hui au Mali, on compte 800 000 Maliens et Maliennes considérés nés comme esclaves. 200 000 vivaient encore sous le contrôle de leur maître. Cette pratique persiste notamment dans les régions de Tombouctou, Gao, Mopti et surtout Kaï, malgré son interdiction légale.
Temet, qui signifie parenté en Tamashek, est une association pour la défense des droits humains. Selon son président Ibrahim Ag Id Baltanat, l'association se bat pour l'émancipation des individus victimes d'esclavage héréditaire.
L'esclavage existe à travers tout le Mali. Nous œuvrons pour l'émancipation des personnes victimes d'esclavage par ascendance, la reconnaissance de leur pleine citoyenneté et la construction d'un Mali plus juste et respecté des droits fondamentaux de toutes et tous.
À l'occasion, WILDAF Mali a formulé des recommandations, notamment la mise en place immédiate d'enquêtes et d'opérations policières afin d'identifier les lieux de détention pour libérer les victimes.
Actualité régionale, des hommes armés à moto ont attaqué hier les quartiers de Gaouna et Wakareye situés dans le village de Tacharan, commune de Gounzouré et région de Gao. Les assaillants, selon des témoins, ont tiré en l'air, semant la panique au sein de la population. Aucun blessé ni décès n'ont été signalés. Toutefois, les bandits sont partis avec des bœufs et deux motos, rapportent les mêmes sources.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondello Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Au Mali, les cheveux des nouveau-nés sont au cœur de diverses croyances. La tradition les conserve pour des raisons mystiques, tandis que la religion préconise de les jeter après le rasage lors du baptême. Pour mieux comprendre ce sujet, notre reporter Koumafin Keïta a rencontré des spécialistes. Découvrons ensemble dans le dossier de la semaine.
À Bamako, les mamans ont des opinions variées sur le sujet. Certaines femmes disent comprendre l'origine spirituelle de cette croyance, tandis que d'autres n'en ont aucune idée.
Après le baptême de mon bébé, j'ai confié la gestion de ses cheveux à mon mari. Dans mon village, ce sont les femmes âgées qui s'en occupent. J'ai remarqué que d'autres conservent les cheveux du nouveau-né. J'ai fait pareil sans vraiment comprendre pourquoi.
Les premiers cheveux représentent les premiers sacrifices de l'enfant. Si on n'a pas les moyens de faire ce sacrifice, il est conseillé de bien les garder.
Yakuba Dougouni, sociologue, explique « Les premiers cheveux d'un enfant sont sacrés. Ils sont souvent ciblés pour nuire à l'enfant, ce qui explique le mystère qui les entoure. » Les sociologues ajoutent que l'avenir de l'enfant est étroitement lié à ses cheveux. C'est pour cette raison que les anciens insistent pour qu'ils soient protégés des regards malveillants.
Vous savez, les cheveux, c'est des formes, c'est des lignes qui apparaissent au niveau même des cheveux de l'enfant. Quand les lignes sont d'une trop forte, on peut interpréter facilement l'avenir de l'enfant. La tête est rasée en fonction de ses lignes. Voilà, destiné à être riche et tout ça. Donc, on fait des interprétations par rapport à ça.
Dans la religion musulmane, les premiers cheveux d'un enfant n'ont pas de caractère sacré. Selon Sadibou Koulibaly, imam Akaï, on les pèse généralement pour faire des sacrifices en faveur du bien-être de l'enfant. Ensuite, on s'en débrasse.
L'islam recommande de raser la tête des nouveaux-nés, garçons et filles. Les cheveux sont pesés et l'air équivalent en or est donné à nous. monde, selon les moyens des parents.
Chez les chrétiens protestants, les cheveux d'un bébé n'ont pas de signification particulière. Conserver ses cheveux pour d'autres usages va à l'encontre des principes de l'Église. C'est ce qu'affirme Polycarpe Diarra, pasteur à Tominia.
Les cheveux, c'est une partie de l'enfant que Dieu a donné. Donc, on ne se sert pas, en tout cas, d'une partie de ces dons de Dieu, qui sont les cheveux, pour en faire d'autres usages.
Malgré les avis divergents de la religion et des coutumes sur cette question, de nombreux citoyens restent fidèles à cette pratique. Ils la considèrent comme une part essentielle de leur identité culturelle.
Un dossier signé Koumafi Keïta. Juste après le magazine, ce sera le Grand Dialogue. Mariam Maïga, quel est le thème du débat de ce soir?
L'or brillera-t-il enfin pour les Maliens? C'est le thème central de notre émission de débat, le Grand Dialogue de ce soir. Et pour en parler, nous avons comme invité Tiamoro Souleymane Sangaré, secrétaire général de l'association Publiez ce que vous payez, Djibril Diallo, expert minier, Daouda Moussa Kone, économiste.
Merci et très bon débat. Réécoutez ce journal et le magazine qui va suivre en appelant le service Kounafoni au 37321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Les commissions foncières COFO sont chargées de gérer les questions foncières. Elles font également la conciliation lorsqu'il y a des litiges fonciers. Ces commissions existent dans toutes les communes. Selon des femmes, la mise en place de ces COFO a facilité l'accès des femmes aux terres. Le magazine Toutes les femmes du Mali d'aujourd'hui s'intéresse à l'implication des femmes dans les COFO, une réalisation de l'Alaïcha Wallet Infa avec l'appui des correspondants.
La question foncière a longtemps été la chasse gardée des hommes. Les femmes n'y étaient pas associées. Mais de nos jours, cette tendance est en train d'être inversée dans beaucoup de régions. La gent féminine est représentée dans les différentes commissions foncières mises en place dans les communes. Et elles font plus que la figuration, comme en témoigne Mme Djassana Aïché-Diko et coordinatrice JAR au niveau du comité régional des concertations des ruraux de Sikasso.
Il y avait un site précisément Nyanzé-Dougou, où il y avait des questions, problèmes fonciers, avec l'implication des collectivités et puis l'administration, on a pu résoudre.
L'apport des femmes dans ces commissions foncières n'est pas à discuter, selon Moumine Meïga, membre d'INCOFO à Diri. En plus de s'impliquer dans la résolution des problèmes fonciers, ces femmes défendent l'intérêt des femmes paysannes dans ces COFO.
Les femmes jouent un grand rôle dans cette commission. Elles acceptent d'aborder les problèmes des terres et défendent même l'intérêt des femmes à propos des terres. D'ailleurs, ça abouti à quelque chose, parce qu'actuellement, elles sont parvenues à avoir un périmètre irrigué au niveau de la coopérative agricole de dire qu'elles exploitent depuis combien d'années. Ça, c'est une chose qui est à féliciter. C'est aussi à l'actif des femmes.
Ces propos sont soutenus par Antoine Traoré, membre de la commission foncière de Sigou. Selon lui, cette présence des femmes dans les commissions foncières permet aux femmes de pouvoir accéder aux terres dans l'office du Niger.
Grâce à leur engagement au sein de cette commission, c'est que beaucoup de problèmes ont été résolus en faveur des différentes associations et coordinations féminines. Même au sein de l'Office du Niger, on a songé aux femmes, aux jeunes, pour la répartition des terres afin de leur permettre de bien travailler.
L'accès des femmes aux terres, notamment 15% de la loi leur accorde, est devenu plus facile depuis l'avènement des commissions foncières. Ce n'est pas la coopérative de Gorko Hondo à Diré qui dira le contraire. Cette organisation féminine a pu avoir des parcelles grâce à l'implication des femmes dans ces commissions foncières. Madame Cissé Nana Hamadjallou.
Côté de la coopérative agricole de Ngorfo Hondou, ils ont eu à donner des parcelles aux femmes. Nous sommes plus d'une vingtaine. C'est notre troisième année cette année.
À Koutiala, grâce à la commission foncière, beaucoup de défis liés aux litiges fonciers ont trouvé une issue favorable. Et les femmes ne se sentent pas restées en marge dans la gestion de ces problèmes. Toutefois, selon Nire Djenaboudaou, représentante des femmes à la COFO de Koutiala.
Les neuf villages de la commune urbaine de Koutiala a donné 2 hectares de terre aux femmes de chaque village. Nous sommes également en entretien avec la COFO pour sécuriser ces terres. Certes, il y a des problèmes fonciers, mais le fonds d'appui à l'agriculture a fait de son mieux pour les femmes.
Au Mali, l'agriculture et le maraîchage restent les principales activités menées par de nombreuses femmes. Mais dans beaucoup de localités, l'accès aux terres constitue un obstacle pour ces femmes. femmes. Si les commissions foncières ont considérablement réduit cette difficulté dans certains endroits, elles démarrent dans d'autres.